peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
C'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous vous retrouvons aujourd'hui pour la suite de ces chroniques hebdomadaires dédiées au cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h30 sur CFM Radio, la radio de proximité dont on me dit que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Jean-Yves, si nous prenions le cheval au mot aujourd'hui, le mot étalon. Alors un petit peu d'histoire ou d'étymologie, c'est vers le début du XIIIe siècle. Étalon désigne un cheval entier, donc non castré bien évidemment, et destiné à la reproduction. Et on disait à l'époque l'estalon. On disait,
mais qui s'est étendu aussi à la race humaine, parce qu'on dit ça c'est un bel étalon. Hein.
Ah toi Jean-Yves, t'en loupes jamais une, surtout quand on a Sarah à côté de nous, là ça marche à tous les coups, t'es formidable. Alors, ce mot vient du francisque stallo, cheval gardé à l'écurie, mot dérivé lui-même de stall, qui dans cette ancienne langue germanique désigne une écurie, stall, S-T-A-2-L. Le latin s'empare du mot sous la forme stabulum, dans le sens d'étable, réemprunté en 1833 sous le terme technique de stabulation, que Mario connaît bien, c'est un terme d'élevage qui est bien connu, et qui désigne le séjour de bestiaux dans une étable. Alors, le français en a gardé le mot stall, compartiment cloisonné réservé à un cheval dans une écurie, mais également l'étalon de mesure, modèle à partir duquel on reproduit la mesure, on parle du maître étalon. Un peu comme l'étalon cheval est le reproducteur d'une lignée, bien que cette dernière thèse soit toujours discutée par les spécialistes. Les spécialistes ne sont pas encore tout à fait d'accord.
Alors, il y a beaucoup de mots français qui sont issus du cheval, sa façon de l'expliquer.
Exactement, et on s'aperçoit qu'en réalité, la plupart des mots, moi je m'en rends compte en travaillant sur ces émissions, c'est qu'elles viennent du haut allemand, du vieil allemand. Et effectivement, quand les Romains ont conquis la Gaule, la Germanie, eux avaient une cavalerie très faible, et par contre ont pris des auxiliaires gaulois, germains, avares, qui eux, effectivement, étaient des cavaliers depuis très très longtemps. Et c'est pour ça que beaucoup de mots en français viennent du haut allemand.
Voilà. Oui.
Alors, le sujet de la semaine, donc on va s'intéresser...
Oui, mais on n'a pas tout le monde tout dit sur les talons.
Alors, vas-y Jean-Yves.
Ouais, les talons, il est sélectionné, et puis les talons est là pour la saillie, donc il saillit les juments, c'est le reproducteur. À la différence de tous les autres chevaux qui sont entiers encore, puisqu'ils ne sont pas castrés, qui ont leurs testicules, qui pourraient reproduire, mais qui ne reproduisent pas. Donc, l'étalon, lui, c'est celui qui reproduit.
Alors, je voudrais quand même préciser quelque chose. Tu sais que plus de 85% des cavaliers en France sont des cavalières. Et moi, je voudrais dire autre chose. Quand on parle de cheval entier, on parle toujours du mâle. Mais je suis désolé, une jument, c'est un cheval entier.
Ah, là, je sais pas. Alors là, vraiment,
elle est intacte.
Il faut jouer sur les mots. C'est un cheval entier, oui.
C'est un cheval entier.
Si on veut, oui, c'est vrai, on peut parler.
Voilà, bon, parler de donc, ça, oui. Honneur aux juments. Et à celles qui les montent. Alors, la semaine dernière, le messager du cheval s'est intéressé à la réintroduction du cheval en Amérique du Nord par les Espagnols au cours du XVIe siècle. Ce sont des chevaux barbes, rustiques et endurants, regroupés en troupeaux redevenus sauvages, qui colonisent les vastes plaines du Nord et de l'Est américain. Les peuples amérindiens comprennent très vite l'intérêt de réapprivoiser l'animal, ce qu'ils réussiront à faire en seulement quelques décennies. Vont très vite. Le cheval leur permet désormais de se déplacer rapidement et fréquemment sur de longues distances. Jusque-là sédentaire, un grand nombre de tribus redécouvrent ou découvrent le nomadisme. Alors, nous allons essayer au cours de cette émission de nous mettre dans la peau d'un Indien des plaines à travers la vie d'un grand chaman Sioux, Black Elk, en français ça veut dire élan noir. Alors, il est né en décembre 1863. Alors, selon le calendrier indien, c'est beau, je pense que ça va te plaire, Jean-Yves, la lune des arbres qui craquent, comme tu vois, comme il s'intéressait à la nature. Hein, il disait pas janvier-février, mais la lune des arbres qui craquent.
Mais donc, ces Indiens étaient des hommes extraordinaires.
Voilà. Et donc, pendant cette lune des arbres qui craquent, donc, c'est la naissance de Black Elk. Et donc, il naît au pied des montagnes rocheuses dans l'actuel état du Wyoming, au nord-est des États-Unis. Il appartient au clan Oglala, de la tribu des Lakota, une des composantes de la nation Sioux, qui était une très grande nation, donc pas mal de tribus. Elle a pour alliés les Cheyennes et les Arapahos, mais aussi les ennemis comme les Pawnees et les Crows, c'est-à-dire les Crows, par exemple, ça veut dire corbeaux. Alors, la découverte de l'or en Californie provoque une ruée massive des migrants venus de l'Est à travers les territoires indiens, ce que ces derniers refusent, évidemment. Ils pressentent que les Wasichus, qui est le mot Lakota pour dire les hommes blancs, à cause de ce métal jaune qui les rend fous, veulent ouvrir une route à travers le territoire des tribus là où est l'or. Alors, cette route effraierait les bisons et les ferait partir, et puis elle laisserait venir d'autres émigrants comme une rivière. Des troupeaux de plusieurs millions de bisons peuplaient alors les grandes plaines de l'Ouest et constituaient la ressource principale des Indiens des plaines. Ils en tiraient une grande part de leur alimentation et savaient conserver la viande pour les mois d'hiver en la découpant en lanières qu'ils faisaient sécher. Donc, les grandes chasses, et ensuite, on préparait, on récupérait la viande, on la coupait en morceaux, et on la faisait sécher, et ça durait des mois et des mois. Elle était consommable pendant des mois et des mois.
Le bison était l'animal de base.
C'était l'animal de base, tu as tout à fait raison, Jean-Yves.
Puisqu'il leur fournissait tout,
Tout, voilà. Alors, la peau qui servait à confectionner les tipis, les couvertures d'hiver, les habits, les boucliers. Les os étaient utilisés pour fabriquer des aiguilles à coudre, mais également des armes, les fameux casse-têtes. Ils prenaient la mâchoire inférieure, enfin, le maxillaire inférieur d'un bison, comme ça, et c'était une espèce de hache en os, le fameux casse-tête.
Hein. C'est là où le cheval était précieux, parce que pour attraper le bison, ben, c'était avec les chevaux, c'était des cavaliers
bien sûr,
remarquables, ouais. Donc ils forçaient un peu, c'était un moyen pour
absolument. Et ils travaillaient aussi beaucoup avec les loups, en réalité, c'est-à-dire qu'ils avaient adapté leur méthode de chasse quand ils étaient à pied, mais aussi quand ils se sont retrouvés à cheval plus tard, quand ils ont eu les chevaux, c'est-à-dire qu'ils encerclaient les troupeaux. Ils essayaient de briser le troupeau, et à ce moment-là, ils les encerclaient, ils les criblaient de flèches. Voilà. Donc, c'était une technique un petit peu comme les loups. Les loups font la même chose, ils encerclent.
Ils encerclent,
oui. Voilà. Et puis ensuite, ils choisissent le plus faible ou un blessé, et puis, ben, ma foi, ils essayent de l'attraper, de le tuer pour pouvoir le manger.
Mais ils s'identifiaient et ils imitaient beaucoup les animaux sauvages qui les entouraient.
Absolument. Alors, donc, les tendons aussi, donc, on a vu que la viande, évidemment, il l'a mangée, la peau, il la prenait pour faire des vêtements, pour faire les tipis, et les tendons fournissaient le fil à coudre et les cordes des arcs. Donc, vraiment, tout était utilisé. Alors, devant le refus des Blancs de renoncer à traverser les territoires des Sioux, la guerre est inévitable. Et l'an noir a 3 ans quand a lieu la première grande bataille que les Indiens nomment la bataille des Cent Tués. Nous sommes le 21 décembre 1866, c'est un massacre. Le capitaine Fetterman et 80 de ses hommes sont tués, donc. Un traité de paix est malgré tout signé en 1868 entre le gouvernement et le chef des Lakotas, qui s'appelait Nuage Rouge, Red Cloud. Donc le traité de Fort Laramie, dans lequel il est dit que le territoire des Indiens leur resterait aussi longtemps que l'herbe pousserait et que l'eau coulerait. Bon, donc on voit que le traité est rapidement violé. Et le gouvernement américain propose alors aux Lakota, alors ça c'est formidable, donc il propose aux Lakota une compensation financière de 105 millions de dollars. Les Lakota refusent l'argent, car ils savent bien que cela signifierait que leur territoire deviendrait définitivement la propriété de l'homme blanc. Et ils refusent encore actuellement l'argent, c'est-à-dire que placé en banque, avec la différence entre 105 millions de dollars à la fin du 18e siècle et maintenant, ils auraient un pactole à peu près d'un demi-milliard de dollars disponible. Et ils le refusent. Et ils le refusent parce qu'ils se disent, si on accepte, ça veut dire qu'en fait, on n'a plus aucun droit sur nos territoires ancestraux. Alors nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission après une pause musicale. Zachary Richard dans le Nord canadien.
J'entends leur vilaine sang. Tenant la torche dans leur vilaine main, dans le nord, oh, oh, canadien. Dans le nord, oh, oh, canadien.
La pratique de l'équitation et de la chasse commence tôt pour un jeune Sioux. À 5 ans, Élan Noir sait monter à cheval et utiliser l'arc que son grand-père lui a fabriqué. Lui et ses copains s'adonnent au jeu qu'ils appellent « Faites-les tomber de cheval ». Ça, c'est marrant. Alors, tu vas voir Jean-Yves. Alors, Élan Noir nous en précise les règles. C'est un combat, tuerie acceptée quand même, mais parfois on se faisait mal. Les cavaliers des différents groupes s'alignaient et chargeaient les uns contre les autres en criant. Et quand les chevaux lancés se rencontraient, ils se cabraient, ils se dépattaient et hennissaient dans un nuage de poussière, et les cavaliers s'empoignaient, luttant jusqu'à ce qu'un des camps ait perdu tous ses hommes. Car ceux qui étaient tombés étaient comptés pour morts.
C'est un peu comme le bouscachi aussi.
C'était un petit peu comme le bouscachi.
Les chevaux participaient.
Mais les gamins étaient jeunes, hein, ils avaient 4 ans, 5 ans, 6 ans. Hein, je veux dire, c'était l'âge où ils faisaient ça sur des chevaux.
Mais la valeur n'attend pas le nombre des années. Hein.
La valeur n'attend pas le nombre des années. Alors c'est à l'âge de 13 ans, en juin 1876, qu'Élan Noir participe à sa première bataille sous les ordres d'un chef et chaman très respecté, son cousin Crazy Horse, en français Cheval Fou. C'est la fameuse bataille de Little Big Horn. Les Lakota et leurs alliés, donc les Lakota, Élan Noir était un Lakota, et leurs alliés Cheyenne, Arapaho, Séminé-Conjou et d'autres tribus encore, anéantissent la cavalerie du général Custer. Élan Noir y obtient son premier scalp, il a 13 ans. Il visite avec d'autres jeunes guerriers, alors ça c'est marrant, le champ de bataille jonché de cadavres de soldats. Il aperçoit attaché à la ceinture de l'un de ceux-ci un objet rond, brillant et très beau. Il raconte, alors je le cite, « Je l'ai mis en guise de collier. Au début, cela faisait tic-tac au-dedans et puis cela ne le fit plus. » Je l'ai porté longtemps à mon cou avant d'apprendre ce que c'était, comment lui redonner son tic-tac. Donc au bout d'un moment, il a compris comment remonter la montre, qui étaient les montres rondes, comme on faisait dans le temps. Alors, selon la tradition des Sioux, un chant de mort est composé dans la nuit qui suit. Alors, il parle le chant parle de longue chevelure. Longue chevelure, c'était le nom du général Custer, parce qu'il portait les cheveux longs, tout simplement. Alors, le chant des Sioux, des Lakota, c'est celui-là. Longue chevelure, je n'avais pas de fusil. Tu m'en as apporté beaucoup, je te remercie, tu me fais bien rire. Longue chevelure, je n'avais pas de chevaux. Tu m'en as apporté beaucoup, je te remercie, tu me fais rire. Donc ils avaient le sens de l'humour quand même.
Oui, fait.
Mais le rire ne dura pas. Après la victoire de Little Big Horn, l'armée américaine pourchasse désormais sans relâche les Sioux, les forçant à fuir et à se battre sans répit. Décimés, affamés, les Indiens sont contraints de manger les chevaux morts de froid. Le coup de grâce est donné en octobre 1876 quand certains chefs acceptent de vendre le territoire des montagnes noires aux colons blancs. Désespéré, Élan Noir a des mots très durs. Alors il dit... Peut-être que certains chefs ont fait cela quand ils étaient fous d'avoir bu le whisky que les Blancs leur avaient donné. Seuls des hommes insensés ou devenus fous sont capables de vendre leur terre mère. Puisque pour les Indiens, du nord comme du sud, la terre n'appartenait pas aux gens. Elle appartenait aux animaux, aux plantes, à tout le monde. La terre mère. Hein. Seuls des hommes insensés ou devenus fous sont capables de vendre leur terre mère. Alors la nation Sioux s'éparpille, une partie d'elle décide de quitter les montagnes noires pour se réfugier au Canada, le pays de grand-mère. Ils appelaient la reine d'Angleterre grand-mère. Ceux qui sont restés, dont Élan Noir, prennent la résolution de rejoindre Fort Laramie, la ville aux soldats, ils appellent la ville aux soldats, pour passer l'hiver. La nation Sioux est désormais à genoux. Mais l'histoire d'Élan Noir est loin d'être terminée. Dans une prochaine chronique, le messager du cheval vous racontera comment Élan Noir a été engagé dans la troupe de Buffalo Bill pour une série de spectacles donnés en Angleterre et à l'occasion desquels il fera la connaissance de la reine Victoria. Je dirais pas qu'ils étaient potes, mais c'était pas loin. Ils sont bien entendus, ces deux-là. Alors Jean-Yves... La reine directe, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la reine directe? Qu'est-ce que c'est? On a vu la reine d'appui, la reine d'ouverture, la reine directe, c'est quoi?
Normalement, il doit y avoir 5 effets de reine. Moi, je ne suis que pour 2. 2 effets qui sont des effets, l'effet d'ouverture et l'effet d'appui, parce que les autres sont des effets d'opposition. Donc la reine directe, on agit directement sur l'épaule droite avec sa main droite et son épaule droite. Voilà, on fait monter l'épaule droite, on résiste, on ferme ses doigts sur les reines, on se grandit du haut du corps à droite et ça oppose, ça retarde l'épaule ou même ça la stoppe, ça l'arrête. Voilà, ça c'est la reine directe. Mais la reine d'ouverture et la reine d'appui, elles sont des reines où on peut aller jusqu'à la dernière expression, on peut aller jusqu'au changement de pivotant sans opposer. Donc on ne va pas être avec et opposé. Voilà pourquoi je préfère la reine d'ouverture et la reine d'appui. Où on pousse l'épaule au moment où le cheval lève l'antérieur quand il est au soutien. Voilà, on pousse l'épaule, ça la fait croiser, on peut pousser l'épaule de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite. Ou la retarder et la faire monter, donc en la faisant directement, en fermant ses doigts sur les reines, en se grandissant du haut du corps, on retarde l'épaule, on la ralentit ou on l'arrête.
Alors, il y a quand même, en équitation montée, là, je te suis, je pense que tout le monde te suit sans problème, tu es très clair. Mais par contre, en attelage ou au long grain,
Au long grain, il n'y a qu'un seul effet, c'est l'effet direct.
C'est un effet direct, voilà, c'est ça.
On ne peut pas faire ni l'effet d'ouverture, ni l'effet d'appui.
Voilà, c'est cela. Et pourquoi cet effet qui marche quand on mène un attelage ou quand on est au long grain ne marche pas? Tu la déconseilles fortement, donc monter. Tu viens de nous donner une explication, mais donc fondamentalement pour toi, donc c'est vrai que ça bloque les épaules.
Tu ne peux pas... ça bloque ou ça retarde.
Ou ça retarde, voilà, c'est cela.
Parce que autrefois dans l'armée, on comparait le squelette du cheval au squelette humain, donc on mettait un homme à 4 pattes à côté du cheval, et le fait de monter son épaule. Faisait monter l'épaule du cheval. Voilà, on s'assoyait, on était assis, on fermait les doigts, on montait l'épaule droite et le cheval montait son épaule droite où on pouvait agir et retarder son épaule droite.
Et alors toi, tu as beaucoup travaillé les chevaux longue graine. Comment tu leur demandais, par exemple, je sais pas moi, des changements de pied, de hautant ou tous les airs de basse et de haute école, puisque oui, au longue graine tu n'as que la reine directe de disponible.
En passant de l'attitude, c'est pareil quoi. Au longue graine, on retarde l'épaule, on la fait monter. Et puis on relâche, donc tout ça c'est dans le mouvement et en harmonie avec son corps. Parce que là aussi, et plus que partout ailleurs, il faut agir comme si on dansait avec le cheval. Mimer le mouvement, mimer le pas, mimer le trot, mimer le galop, et le cheval réagit au mime.
D'accord Jean-Yves. Alors le dicton du jour, le travail sur le mental et l'émotionnel du cheval est sans fin. Qu'est-ce que cela t'inspire Jean-Yves?
Mais disons que le cheval, on peut en parler pendant des jours, des heures, des années, et on ne t'arrivera jamais. Et puis, agir sur le mental, bien sûr. Et si le cheval a fait le chevalier, c'est aussi un peu pour cette raison. Parce que le cheval est un animal noble qui ennoblit celui qui se consacre à lui. Donc, on prend on retrouve les qualités humaines qui sont de ténacité, persévérance, passion, amour et sentiment. Sentiment, c'est à la fois, la connaissance, physique, mais aussi la connaissance mentale. Donc c'est un équilibre entre le corps et l'esprit.
Et alors, est-ce qu'un cheval est un animal émotif?
Oui, le cheval est électrique.
Donc électrique.
C'est un des animaux
les plus
radiesthésistes, qui connaît très très bien l'état d'esprit dans lequel vous êtes et qui le devine. Donc il faut faire avec.
Voilà, c'est-à-dire que concrètement, si je suis détendu sur mon cheval, il se détendra.
Mais là,
si par contre je suis
craintif... Parce que quand on est détendu, on dégage une adrénaline de satisfaction. Quand c'est le contraire, quand on est coincé, on dégage une adrénaline d'opposition. Et donc, il le sent très très bien.
C'est vrai qu'on disait, moi on me disait, il y a longtemps, lors des concours hippiques, généralement les parcours faits après le repas de midi sont toujours meilleurs que les parcours faits le matin. Parce qu'il y a eu quelques petits verres de vin rouge qui sont passés par là, ou de bière, le cavalier ou la cavalière est assez détendue, pas euphorique mais quand même, et généralement ça va mieux.
Oui, mais en fait c'est pas tout à fait
Le colonel Gély nous le disait, ça.
Oui, mais
ton instructeur à Saumur.
Ça n'agit pas, chacun de nous est un cas particulier.
Bien sûr.
Ces effets-là ne sont pas les mêmes sur tout le monde, parce que parfois, l'alcool excite un peu et décontracte, peut jouer le rôle inverse aussi.
Donc tu as tout à fait raison, pour avoir un corps sain qui répond, effectivement, éviter l'alcool, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, le livre et le film de la semaine. Le livre, c'est « Art des Indiens d'Amérique du Nord », un superbe album de David Penney, un des plus grands spécialistes de l'art des Indiens nord-américains, et c'est chez Terrail. Et puis évidemment, Danse avec les loups, de et avec Kevin Costner, le superbe film aux 7 Oscars. Et enfin, Sarah, tu nous as parlé évidemment de Little Big Man, de Dustin Hoffman, et l'actrice...
Faye Dunaway, il me semble. Un film de Arthur Penn.
Merci, Sarah. C'est avec plaisir. Alors, par contre, je reviens à Danse avec les loups. C'était un film qui a quand même obtenu 7 Oscars. Hein. Oui, c'était un film qui a été extrêmement primé. Alors, c'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mercredi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour de nouvelles chroniques, toujours à 12h30 sur CFM Rodez 107.9 et sur CFM Villefranche de Rouergue 90.2. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le messager du cheval. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, et puis un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.
Hey, hey, partis les chevaliers, allant des fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey. C'est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey, non, 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 hey, hey, marche droit et souris. Ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, sur un toit tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, non, 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 non. D'aigle mort à Rodez, en passant par Salmières, du Languedoc au Rouergue, après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertera de Nyonne, les Vézous, Salmières, milieu du Seine, patrie de Béranger, de l'Andorre, capitale du Rouergue Rodez, entrez dans la légende de la route du Seine.